Welcome to Radio Compass.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans. On est ravis de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine d'actualité dans Écoute ta fac. Et comme chaque jour, on commencera avec notre flash actu. Un petit tour de l'actualité de la presse d'aujourd'hui, des informations internationales, nationales et locales préparées avec Lucas et Faustine. Puis on enchaînera avec l'interview de Camille Dugrand et de Claire Cherbonnet. Politiste et statisticienne avec qui nous parlerons de l'étude dédiée aux conséquences du Covid-19 sur la santé mentale des 18-24 ans et des 50-64 ans. Enfin, en deuxième partie d'émission, ce sera l'interview de Yann Daneyck Levevre, responsable du CERCIL à Orléans. Pardon, c'est plutôt une interview réalisée par notre ancien stagiaire Yann concernant Anaïk Lefebvre, responsable du CERCIL d'Orléans. Voilà, désolé pour ce petit cafouillage. Et on va commencer avec le flash actu avec Faustine et Lucas.
C'est le flash actu sur Radio Campus Orléans.
Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la journée internationale de ce lundi 19 juin 2023. Et aujourd'hui, le 19 juin, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. L'expression « violence sexuelle liée au conflit » recouvre des actes tels que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l'avortement forcé, la stérilisation, ou encore le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable perpétrée contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons, ayant un lien direct ou indirect avec un conflit. Les professionnels sur le terrain estiment que pour chaque cas de viol déclaré lié à un conflit, il y a 10 à 20 qui ne le sont pas. Et on va maintenant parler des États-Unis avec Rodrigue.
Et oui, ce dimanche 18 juin a été marqué par la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Chine. Les États-Unis saluent des discussions constructives entre les deux pays. Les sujets de tension restent en l'air, particulièrement sur la question autour de Taïwan. Mais l'esprit de ces deux jours semble vouloir se tourner vers un dégel diplomatique. Une affaire qui est donc à suivre. On poursuit avec les actualités internationales. Lucas, avec toi, en partant en Australie.
Effectivement, on part en Océanie et plus précisément en Australie avec l'organisation d'un référendum pour donner une voix aux aborigènes au Parlement. Le Sénat australien a donné ce lundi son accord à la tenue d'un scrutin pour réviser la Constitution et octroyer aux autochtones le droit d'être consultés au sujet des lois ayant un impact sur leur communauté. Pour rappel, il s'agit d'environ 900 000 personnes qui s'identifient comme aborigènes en Australie, sur les 25 millions d'habitants que compte le pays. Il y a toujours aujourd'hui de profondes inégalités qui subsistent, cette minorité est confrontée à toujours plus d'inégalités, et des conditions de vie plus difficiles, avec un moindre accès aux soins et à l'éducation, une expérience de vie plus faible, des salaires plus bas et un taux d'incarcération très élevé. Et on passe à l'international, tout de suite.
Au national, plutôt.
Ah oui, au national, pardon, avec le grand oral. Et c'est aujourd'hui que débute pour les lycéens l'examen du grand oral de ce lundi 19 juin jusqu'au vendredi 30 juin. Les 530 000 élèves de bac, donc c'est-à-dire de terminale, devront passer sur l'un des sujets qu'ils ont dû préparer en vue de cette épreuve. Bonne chance à eux et on espère qu'ils vont réussir. Et on passe à Rodrigue avec les assises des finances publiques.
Et oui, l'actualité nationale marquée également par les assises des finances publiques qui se sont ouvertes aujourd'hui à Bercy. L'objectif, ce sont de dégager 5% d'économies par rapport au budget voté l'an dernier. Après l'abaissement au mois de mai de la note de la France par l'agence de notation Fitch et le maintien de la note de la France par l'agence Standard & Poor's Global, le gouvernement semble poursuivre sa politique visant à rassurer les marchés financiers concernant la solvabilité de la France. Une solvabilité qui coûte cher à la France, car avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce sont des nouvelles coupes budgétaires qui sont à prévoir, alors que les systèmes sociaux et les systèmes éducatifs sont mis à rude épreuve. On peut présager des nouvelles réductions de financement de l'État pour les universités. L'actualité nationale qui a été marquée ce week-end par des séismes, Faustine.
Tout à fait, dans la soirée et la nuit du 16 au 17 juin, a été ressenti un des plus gros séismes en France, dans l'Ouest. La magnitude de cette violence de secousse a été évaluée entre 5,3 et 5,8 selon le réseau national de surveillance sismique. Heureusement, seul un blessé léger et des dégâts matériels ont été dénombrés. Et c'est maintenant toi, Lucas, qui va nous parler du Panthéon.
Effectivement, on va parler de Missak Manoukian au Panthéon. Le héros fusillé par les Allemands en 1944 devant une cour d'assises, rescapé du génocide des Arméniens, premier résistant étranger et communiste à entrer au Panthéon, sera accompagné de sa femme Mélinée. Message politique fort et lourd de sens, la décision a été officialisée dimanche 18 juin par l'Élysée. La cérémonie se tiendra le 21 février 2024 prochain, soit l'anniversaire des 80 ans de sa mort, pour l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian. Et on passe à l'extrême droite avec Faustine qui va nous parler du mouvement néo-nazi.
Exactement, pour la première fois en France, est jugé devant une cour d'assises le premier dossier terroriste d'extrême droite. On y retrouve notamment Alexandre Gillet, néo-nazi et ancien gendarme adjoint volontaire qui voulait, je cite, « faire pire que le Bataclan ». Le procès concerne quatre jeunes hommes d'extrême droite, dont un mineur. Ce groupe rassemblait des armes et s'entraînait au tir en forêt, avec comme cible potentielle d'attentats terroristes, des mosquées, des institutions juives ou encore Jean-Luc Mélenchon. C'est maintenant toi, Lucas, qui va nous parler du rapport de la Cour des comptes de l'Université d'Orléans.
Effectivement, on passe à l'information locale. La Cour des comptes a rendu public vendredi 16 juin le rapport rédigé au sujet de l'Université d'Orléans, un travail qui a pris 4 ans et qui concernait notamment les exercices comptables de 2013 à 2021, une période assez mouvementée pour l'établissement de l'Université d'Orléans. Si l'université a modifié ses pratiques sur certains points, de nombreux défis restent encore à relever. Des pistes sont soufflées par les inspecteurs. Affaire à suivre.
Et maintenant, on passe aussi à une autre actualité qui s'est passée hier. Un orage violent dans Orléans et ses alentours. En effet, on a eu donc un violent orage qui s'est abattu sur le Loiret, mais aussi sur Paris, ce 18 juin, en fin de journée. Les quais de Loire étaient inondés, le sous-sol de la mairie en partie inondé aussi, des caves et des logements sous l'eau. Les pompiers ont recensé une centaine d'interventions et c'est principalement sur la métropole d'Orléans qu'elles se sont concentrées à cause des rues inondées et des arbres au sol à cause de gros coups de vent. La circulation des trains a été totalement interrompue une partie de la soirée. Et c'est maintenant toi, Lucas, qui va nous parler d'une Orléanaise championne d'Europe du sabre.
Oui, c'est l'information sportive du jour au niveau local. L'Orléanaise Manon Brunet-Apiti devient championne d'Europe au sabre. La sabreuse française Manon Brunet-Apiti a remporté son premier grand titre individuel en s'imposant lors des championnats d'Europe de Plovdiv en Bulgarie. Hier, elle était déjà championne du monde par équipe 2018 et vice-championne olympique. Manon Brunet-Apiti est aussi une médaillée d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo en individuel et en or en équipe lors de la Coupe du Monde féminine de sabre 2022. Voilà, c'était le Flash Info du jour.
Merci Lucas, merci Faustine d'avoir pris le temps de nous annoncer ces titres de l'actualité pour ce début de semaine. Vous êtes bien sur Radio Campus Orléans, on passe à la suite de l'émission.
Radio Campus 88.3 FM, c'est bientôt l'apéro audio.
Déreconnect, apéro audio, 23 juin, redéconnect, au 108 Déreconnect. À l'occasion du festival Déreconnect, dédié aux arts hybrides et aux cultures numériques, organisé et programmé par la Labo Média dans le cadre des Human Tech Days de la région Centre-Val-de-Loire, Venez faire la fête avec nous pour la fin de la saison des apérodio et clore en beauté le festival des Reconnect. Apérodio des Reconnect avec la Labo Média au 108 le 23 juin à partir de 19h. Nous vous avons concocté une programmation hypersonique, électronique et éclectique à partir de 19h au 108 Maison Bourgogne. Émission table ronde en direct sur Radio Campus et vernissage de l'exposition Cabinet de curiosité numérique. À partir de 20h30, concert et DJ set dans la cour du 108 avec Hyundai Tropic, live Cosmotronic Dance Floor de Lyon, UFO Nurse, live Dark Ambient Tech de Paris, Inca plus Rep White Beats, live technomodulaire de Toulouse et Cholix pour un mix Hard Mambo Latin Bass d'Orléans. Entrée gratuite et buvette sur place, Apérodio des Reconnect, le 23 juin à partir de 19h au 108. Un événement Radio Campus et la Labo Média dans le cadre des Human Tech Days de la région Centre.
Waouh, Apérodio sur Radio Campus.
Ah oui.
Et c'est le titre Rise de Fuseta que vous venez d'entendre à l'antenne. On enchaîne avec notre invité du jour.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et on reçoit aujourd'hui Camille Dugrand, politiste, et Claire Cherbonnet, statisticienne, avec qui nous allons parler de l'étude dédiée aux conséquences du Covid-19 sur la santé mentale des 18-24 ans et des 50-64 ans. Bonjour.
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 Alors bonjour Camille et Claire, on va commencer par une petite présentation de vos statuts, de votre rôle. Vous allez nous dire qui vous êtes. Donc Camille Dugrand, vous êtes politiste. J'ai cru voir que vous êtes spécialiste de l'adaptation sociale et de la citadinité vagabonde. J'ai fait des petites recherches. Et ensuite, pour vous, Claire Cherbonnet, vous êtes statisticienne.
Oui.
Alors d'abord, Camille Dugrand, Quel est votre parcours et une politiste, c'est quoi ?
Alors, mon parcours. Donc, effectivement, j'ai fait des études de sciences politiques qui m'ont amenée à travailler sur une thèse sur les jeunes qui vivent dans les rues à Kinshasa. Donc, c'est ces informations-là, sans doute, que vous avez trouvées. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années en faisant des allers-retours entre le Congo et la France. Par la suite, j'ai travaillé aussi en Martinique. J'ai enseigné à l'université pendant un moment en Martinique, pendant quelques années. Là, j'ai continué à travailler sur les questions de jeunesse, les musiques urbaines, etc. Et puis, au fil de l'eau, je suis revenue en France hexagonale. Et là, j'ai découvert l'Observatoire régional de la santé. Et donc, maintenant, je suis effectivement chargée d'études à l'ORS. Et cette fois, je travaille sur des thématiques qui sont assez différentes de ce que j'ai fait précédemment. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais on travaille, nous, vraiment sur les questions de santé. Et alors, votre seconde question, qu'est-ce qu'une politiste ? Alors moi, en fait, au long de mes études, donc j'ai fait des études de sciences politiques, en fait, hein, donc j'ai un doctorat en sciences politiques, donc c'est en cela que je suis politiste. Donc j'ai vraiment travaillé, en fait, longuement sur... alors moi, c'était pas la politique en France en tant que telle, c'était plus sur les manifestations politiques que peuvent représenter les bandes de jeunes, les musiques urbaines, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de la contestation politique. Voilà, c'est sous cet angle-là que j'ai travaillé. Et puis, par contre, j'ai aussi fait, du coup, pas mal de sociologie. Donc là, d'ailleurs, à l'Observatoire régional de santé, c'est aussi beaucoup ça que je fais. Donc c'est des études sociologiques, des entretiens avec plusieurs acteurs, analyser les entretiens, écrire des rapports d'études, etc. Voilà.
Et Claire Charbonnet, justement, vous pouvez vous présenter. Et votre rôle de statisticienne, ça consiste en quoi ?
Oui. Alors, bon, moi, j'ai un parcours un petit peu moins développé que celui de Camille. Non, en fait, moi, j'ai fait une licence MAS à l'époque, maths appliquées sciences sociales, avec un master statistique ensuite. Et donc, je suis arrivée après à Orléans, pardon, directement à l'Observatoire régional de la santé. Donc, tout d'abord en stage et puis après embauchée. En tant que statisticienne. Et donc, moi, mon rôle à l'ORS, c'est d'étudier, en fait, de faire toutes les enquêtes, en tout cas ce qu'on appelle quantitatif, donc de pouvoir étudier, du coup, toutes les données qui existent déjà pour en ressortir, du coup, des résultats, ou alors de créer nous-mêmes des enquêtes sur différentes thématiques, voilà, de santé.
Et justement, ces enquêtes, ces sondages, ces travaux de sciences sociales, ils prennent quelle forme en ce moment à l'Université d'Orléans ? Quel travail vous voulez nous présenter par rapport à la santé mentale des 18-54 ans depuis le Covid ?
Alors du coup, bah, je vais peut-être d'abord vous expliquer ce que notre asso fait vraiment. Donc l'Observatoire régional de santé, donc l'ORS, on est une association basée à Orléans et donc on travaille sur vraiment différents enjeux liés à la santé publique sur toute notre région. Et alors, on mène après des études qui vont prendre plusieurs formes. Donc soit il y a beaucoup de statistiques, soit ça mêle des enquêtes statistiques et sociologiques, etc. Et donc l'objectif, en fait, de notre association, c'est vraiment de mieux comprendre et de mieux connaître les problématiques de santé qui sont rencontrées à l'échelle régionale. Et c'est aussi de mieux faire connaître à la fois au grand public, aux professionnels de santé, aux décideurs aussi, les problèmes de santé connus sur le territoire. Alors, concernant l'étude qui nous amène aujourd'hui, donc on travaille en fait sur une étude qui nous est financée alors par une organisation qui s'appelle l'ADRES, donc c'est la Direction régionale des études de l'évaluation et des statistiques. Et donc, c'est une enquête sur, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale de la population. Et notre étude, elle concerne deux classes d'âge, donc les jeunes de 18 à 24 ans et les personnes de 50 à 64 ans. Et c'est une étude qui est ciblée sur deux régions, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a des collègues, en fait, en Bourgogne-Franche-Comté qui travaillent sur la même étude que nous. Et peut-être pour expliquer pourquoi on a ciblé ces classes d'âge-là, je vais laisser Claire expliquer, c'est elle qui a travaillé beaucoup là-dessus.
Voilà. En fait, on a deux méthodes. Du coup, on a une partie vraiment quantitative, donc statistique, où on traite des données du Système national des données de santé, donc qui regroupe donc le SNDS, qui regroupe l'ensemble des données assurance maladie, d'hospitalisation et de mortalité également. Et puis, on a aussi une partie du coup qualitative, donc sociologique, où Camille du coup vous expliquera ensuite. Donc dans la partie quantitative, on a fait d'abord une analyse exploratoire qui a été réalisée pour définir notre population d'études, parce qu'on ne pouvait pas partir sur l'ensemble de la population, ça paraissait un peu compliqué. Et donc on a identifié donc tout d'abord les personnes qui ont eu une prise en charge en santé mentale, donc à partir de 2020, à partir du premier confinement, donc quelle prise en charge donc en santé mentale, on prenait les hospitalisations en psychiatrie ou avec des diagnostics en psychiatrie, des recours à un psychiatre et les prescriptions de psychotropes. Et puis, on a aussi fait la définition donc, des anciens patients, parce que dans cette cohorte, on va dire, il y avait aussi des patients qui avaient des antécédents d'avant. Et on a regardé aussi ce qu'on appelle les nouveaux patients, en tout cas ceux qui sont arrivés au moment du confinement. Et puis le but est de créer des profils de patients et de parcours de soins avec voilà, des comparaisons anciens, nouveaux patients. Et donc comment on a dégagé du coup ces deux classes d'âge? Donc on a pu voir que chez les 18-24 ans, il y avait une augmentation en fait des recours, que ce soit hospitalisation ou psychiatre, et également des prescriptions de médicaments, entre la période Covid et puis aussi la période 2019, du coup d'avant Covid, et avec des taux plus importants d'hospitalisation en psychiatrie, et chez les 50-64 ans, parce qu'en fait, ils sont déjà plus nombreux en effectif, quel que soit le type de prise en charge, et avec des taux d'antidépresseurs délivrés qui étaient plus importants que dans les autres classes d'âge. Donc voilà comment on a défini ces deux classes d'âge. Alors pour la partie quantitative, l'analyse est en cours. Voilà, on a fait des créations de profils types suivant les patients avec antécédents et ceux sans antécédents. Et l'exploitation se fait avec des données socio-démographiques, donc le sexe, l'âge, le territoire, enfin voilà, où ils habitent, etc. Et puis également avec des éléments de prise en charge en soins, donc par rapport à la période Covid. Voilà, on a essayé de détailler aussi sur plusieurs périodes pour essayer de voir une évolution. Et donc, voilà. Et là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt la partie sociologique donc de ma collègue Camille.
Oui, j'enchaîne. Du coup, moi, voilà, ma partie, elle vise aussi à aller au-delà des chiffres, en fait, et à interroger vraiment le vécu très concret des personnes. Donc, l'objectif, vraiment, c'est avant tout de comprendre les conséquences très concrètes de la période de crise sanitaire et notamment des confinements sur les situations de souffrance psychique. Donc, comme l'a dit Claire, on sait, notamment pour la population jeune, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'il y a eu effectivement un boom à ce moment-là des problématiques de santé mentale chez les jeunes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi, dans quel contexte c'est arrivé. Et l'autre aspect, c'est d'essayer de mieux comprendre aussi, dans ce contexte-là, quelles sont les ressources et vers quelle aide les personnes concernées ont pu aller, puisque dans le contexte de confinement, on sait que c'était plus difficile d'accéder à des professionnels, d'accéder à du soutien. Donc l'idée, moi, de ma partie, c'est aussi d'interroger des gens qui ont vécu ces expériences concrètes pour voir comment ils s'en sont sortis, en fait, dans ce contexte-là. Et l'idée, après, évidemment, plus général de cette démarche-là, c'est de mieux comprendre ces contextes-là, voilà, d'apparition de problèmes psychiques, pour ensuite essayer de dégager des éléments de prévention pour le futur. Voilà. Et donc, moi, dans ma partie, je cherche à interroger des personnes donc, qui étaient âgées de 18 à 24 ans ou de 50 à 64 ans, pendant le contexte épidémique. Donc on a retenu des dates, voilà, c'est en gros mars 2020 qui est vraiment le premier confinement jusqu'à la fin de l'année 2021. Et donc l'idée, c'est d'interroger des personnes qui ont été confrontées dans ce contexte-là à des situations de souffrance psychique, alors qui peuvent être des situations de dépression, des situations d'anxiété généralisée, des pensées suicidaires aussi. Voilà. Et donc, les personnes qu'on recherche devaient résider en Centre-Val de Loire pendant cette période-là ou bien en Bourgogne-Franche-Comté. Et alors, pour préciser un petit peu comment se déroulent ensuite les entretiens dans ce contexte-là, donc en gros, c'est des entretiens qui se déroulent selon plusieurs modalités. Donc l'idée, c'est soit en face-à-face, moi je vais voir les gens et on discute tous les deux, soit si les personnes n'ont pas envie qu'on se voit, préfèrent faire ça à distance, on peut aussi faire ces entretiens par téléphone ou en visio. Et donc, c'est des entretiens qui durent une à deux heures, selon ce que les personnes ont envie d'évoquer. Et ça prend vraiment la forme d'une discussion. C'est pas un questionnaire, question-réponse. C'est vraiment une discussion. C'est laisser la place aussi aux détails du vécu personnel des personnes. Et donc, l'idée, c'est de discuter avec les interlocuteurs du contexte d'émergence des troubles, de l'aide qu'ils sont allés chercher. Et voilà, ensuite, moi, j'analyse tout ça et on en fait ensuite un rapport d'analyse. Voilà.
Très bien.
Oui, Faustine, peut-être parler de la santé mentale et davantage apparue dans la sphère médiatique depuis le confinement, que ce soit sous le prisme étudiant ou dans toute la société. Qu'est-ce qui t'intéresse par rapport à ça, Faustine, justement ?
Eh bien, moi, je serais curieuse de savoir quels sont les principaux facteurs qui font que la santé mentale préoccupe aujourd'hui davantage.
Alors ça, ouais, c'est un enjeu de politique publique, en plus, je pense, assez important. Alors, effectivement, je pense qu'il y a quand même eu l'impact de l'épisode Covid, où on sait que ça a été quelque chose de très prégnant. Je pense qu'il y a aussi actuellement une reconnaissance accrue, de ces questions-là qui étaient peut-être mises au second plan précédemment et qui là sont vraiment prises à bras le corps dans le cadre des politiques publiques. Donc c'est vrai qu'on ressent un intérêt accru, des pouvoirs publics pour la question.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui concrètement a un impact sur la santé mentale aujourd'hui, dans les grandes lignes ? Qu'est-ce que vous avez observé ?
Alors, bon, il y a quand même... Alors, tout le monde vous dirait que c'est le recours aux professionnels, qu'il n'y en a pas assez en région, et que du coup, c'est compliqué, les gens ne vont pas, ne peuvent plus en tout cas avoir une prise en charge comme ils le souhaiteraient. Après, voilà, on est aussi, je pense qu'il y a aussi des enjeux, non pas là, c'est aussi social, c'est aussi culturel. Enfin voilà, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont autres que d'ailleurs des indicateurs de santé qui rentrent en jeu. Ça peut être rien que le sexe, rien que l'âge, d'où on vient, d'où on vit. Enfin voilà, il y a d'autres enjeux qu'uniquement les professionnels qu'il y a de moins en moins en région, en tout cas. Voilà.
Oui, et puis je pense qu'il y a des enjeux, effectivement, comme le dit Claire, des enjeux sociétaux. Alors après, ça dépend évidemment des publics et des situations, mais des situations d'incertitude, de précarité sociale, peut-être une ambiance internationale anxiogène. Enfin, il y a un faisceau d'éléments qui sans doute renforce...
Et puis ces sentiments d'isolement. Enfin, je pense que voilà, pendant les confinements, où finalement...
Ouais.
La vie sociale a été un peu mise de côté, et donc ce qui a pu engendrer aussi un peu toutes ces problématiques de santé mentale.
Dans un contexte déjà assez difficile.
Voilà.
Ouais, ok, c'est ça. D'accord. Ouais. Et moi, j'avais une question, j'étais assez curieuse. Est-ce que vous observez, est-ce qu'il y a même statistiquement une différence au niveau de la santé mentale entre les différentes générations d'étudiants ? Par exemple, entre la nôtre et la vôtre ?
Alors ça, on l'a pas observé.
Ouais, ça, on n'a pas encore, on n'a pas encore observé ça. Bon, en plus, on est vraiment sur une étude en cours. Après, on peut avoir que nous, d'un point de vue vécu personnel, évidemment, on fait des observations. Mais on n'a pas d'éléments scientifiques très concrets.
D'accord. Donc ma question sera répondue plus tard.
On reviendra à la fin de l'étude. Peut-être qu'on pourra vous en présenter.
Et aussi, ce qui est assez intéressant sur le monde étudiant, c'est la question du télétravail, avec les cours à distance. Tout a été modifié par rapport à notre manière d'étudier ou de travailler. Quelles sont les réponses de vous interroger par rapport à cette question-là ?
Alors là, bon, on est vraiment en début de processus, mais c'est vrai que, alors, il y a eu en plus quelques études déjà qui ont documenté ces enjeux-là. Et effectivement, on ressort que l'enseignement à distance a eu un impact en termes d'isolement. Alors moi, ce qui a pu ressortir des premiers entretiens, c'est un premier confinement qui semblait un peu protecteur. Alors certes, il y avait cette situation des cours à distance, mais tout le monde vivait la même chose en même temps. Donc il y avait un sentiment d'être peut-être un peu dans un cocon. Et ce qui semble ressortir, c'est que c'est plutôt la succession en fait, des confinements, et notamment le deuxième, où il a fallu reprendre les cours à distance, mais où la vie reprenait un peu, pas complètement. En fait, on a l'impression qu'on a des jeunes, dans certains cas, qui se sont sentis cette fois-ci un petit peu à la fois lâchés dans la nature, mais avec la nécessité de poursuivre à distance comme ça. Et par ailleurs, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que par contre, il fallait revenir pour les examens, pour les partiels, et que là, d'un coup, on se retrouvait séparés d'un mètre, avec les masques, et que ça avait quand même eu un impact assez fort pour certains.
Ouais, être passé donc de la solidarité au laisser-tomber.
Oui, c'est ça, le côté un peu... la protection initiale, et puis finalement, un second temps, le sentiment d'être un peu lâché.
Claire Charbonnet, peut-être le mot de la fin en quelques secondes, pour revenir sur... cette idée-là du télétravail.
Il faut qu'on ait des jeunes pour nos études, pour cette étude.
Est-ce qu'on peut
voilà. Non. En fait, voilà, pourquoi on est venu, c'était quand même aussi pour cet appel à témoignage, pour qu'on puisse aussi étoffer cette étude avec les témoignages des jeunes et de faire en sorte qu'on puisse apporter des éléments à cette étude.
Donc si vraiment vous nous écoutez et que vous avez été concernés par ces situations, il faut nous appeler. Je vais laisser un numéro de téléphone et une adresse mail. Donc vous pouvez nous appeler au 02 38 74 48 80. Je répète, 02 38 74 48 80. Et vous pouvez aussi me contacter par mail. Donc c'est camille.com. Dugrand, alors c'est tout simple, D-U-G-R-A-N-D, @ORS, le nom de notre organisation, orscentre.org.
Et est-ce qu'il y aurait un site où est-ce qu'on pourrait retrouver les numéros et l'adresse mail en question ?
Eh bien, le site de l'Observatoire régional de la santé, donc qui est orscentre.org.
Très bien. Ce sera peut-être plus simple pour
retenir. Oui, sans doute, pour retenir les contacts.
Voilà. Merci à vous, Camille Dugrand et Claire Charbonnet, pour être venues sur notre plateau aujourd'hui pour parler de votre enquête sur la santé mentale des 18-54 ans en région Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant, Rodrigue, qu'est-ce qui nous attend sur Radio Campus ?
Eh bien, ce qui nous attend sur Radio Campus Orléans, c'est un petit enchaînement musical avec le titre « Pat Turning ». On s'écoute tout ça et on vous remercie encore, Faustine, Lucas, pour cette interview.
Il va nous arriver un truc.
Oh, merde.
Un truc énorme.
On est en pleine délinquance juvénile.
J'ai décidé d'éteindre la télévision cet après-midi pour m'aventurer dans les rues moites puisque c'est l'été.
Radio Campus.
On est des artistes, des futurs stars.
Thank you. Drop the bomb on that nigga, man.
Fly mission.
All right, check this out. Check this. You want to see Saul? Man, I was trying to be nice to y'all, you know, because we rappers against violence. And I didn't want this stuff to get out of hand. But check this out here.
For all my real niggas in the house, check me out. Without a doubt, aftermath. Ha ha. See, back in 93 when EZ was alive, G's hit the spot to show the world how to ride. But ever since he died, man, I ain't felt shit. But it's time to get these frauds dealt with. Y'all niggas gotta shake, man, cause y'all niggas is fake. I'm sick of all them lies you tell on your tape, knowing damn well you're fraudulent. A wannabe, use a prankster, made a little money, turned gangster. You're feeling paranoia? Yeah, look, I got something for you. It's real life, trifling niggas all up on you. Now who you scaring? Who you daring, little weenie, with your played out notes and your beanie? I knocked you out, let me show you what this West Side's about. Fuck them hoes, get money, get clout. But so many boast about this and that, and what they would do with that empty strap. Load your gun, that's if you're even on one. You're throwing up signs where you're from, never heard of you. Should've murdered you and bust verses at your weight, cause King T set tripping on the fake. Y'all fools got drama, talking out your brain for fame. It's time to put the bitch made to shame. These fools throwing up West Side, knowing that they never gang bang, much less ever ran with the hood they claim. That's drama, talking out your brain for fame. It's time to put the bitch made to shame. These fools yelling out West Side, knowing that they never gang bang, much less ever ran with the hood they claim. Extra, extra, hear the whole scoop about your group. They fake it in the birds with the whoop, it ain't real. The shit might sell, but when the truth hits the light, your punk ass probably can't fight. Telling all your gangster tales over your played out beats, wolfing like you're coming from the streets. But when I'm at your back with heat, there's no room for explaining. Strip like a bitch for campaigning. I'm aiming at these fools who didn't pay their dues like Dub C. Experience the rough and hard times like Run D. The trifling King T back with the 12 gauge. I'm finna act a fool, niggas felt the rampage worldwide. We're pulling Bobcat and Black Kevin. I ripped payback in 87. So what it is, I bring the real gangster biz unconcealed. Your whole background to be revealed. Y'all fools got drama, talking out your frame for fame. It's time to put the bitch straight to shame. These fools yelling out West Side, knowing that they never gang bang, much less ever ran with the hood they claim. That's drama, talking out your frame for fame. It's time to put the bitch straight to shame. These fools throwing up West Side, knowing that they never gang bang, much less ever ran with the hood they claim. They call me Big Ballin', suckers can't fade King Tipsy. Alcoholic gypsy, murdering these sissies. Diss me, I fry that ass up real crispy. Glock 9 talking to you now, baby, kiss me. Caution, let me dress that ass for your coffin. Often, I bring it to these fools quite awesome. I ain't nothing to fuck around with, cause baby, I leave your worthless life drenched. I came through to break it down for my coast, the land of the B-dogs and the C-lokes. Ain't to be trusted, so raise on up, for your punk ass probably get stuck, you little bitch. You got drama, talking out your frame for fame. It's time to put the bitch made to shame. These fools yelling out West Side, knowing that they never gang bang, much less ever ran with the hood they claim. That's drama, talking out your frame for fame. It's time to put the bitch made to shame. These fools yelling out West Side, knowing that they never gang bang, much less ever ran with the hood they claim. That's drama, talking out your frame for fame. It's time to put the bitch made to shame. These fools throwing up West Side, knowing that they never gang bang, much less ever ran with the hood.
Et on va passer à la suite de l'émission Écoute ta fac avec un PAD, un petit reportage qui nous a été qui a été réalisé par notre stagiaire la semaine précédente. en partenariat avec le CERCIL. Alors, quelques petits soucis informatiques. Je règle le souci. En attendant, je vous mets le titre 06-1999 de EAPS. Petit souci technique qui s'est donc réglé et comme chaque jour en deuxième partie d'émission, on va pouvoir passer à la suite avec notre reportage. Et notre reportage, comme je vous le disais, il a été réalisé par Yann il y a 2 semaines de ça. C'est une interview avec la représentante du CERCIL, Anaïs Lefebvre, responsable du CERCIL.
Tiens, tiens, c'est le reportage du jour.
Une autre facette de la Seconde Guerre mondiale a été la déportation de juifs, de tziganes, d'handicapés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'accueille Anaïs Lefebvre, responsable du CERCIL Musée Mémorial des Enfants du Vel'd'Hiv. Que propose le musée du CERCIL à ses visiteurs et visiteuses ?
Alors, d'abord, il faut connaître ce qu'est le CERCIL. Il peut arriver effectivement qu'en passant, des touristes, des visiteurs passent devant et se disent « Ah, aujourd'hui, vous parliez du 6 juin, eh bien le 6 juin, on invitait l'historien Tal Brutman, qui aujourd'hui est l'un des plus grands spécialistes de la Shoah et de l'histoire de l'antisémitisme au XXe siècle en France. » Ça, c'était l'actualité de mardi dernier, donc peut-être que des personnes ont pu se déplacer à ce moment-là. Mais d'abord, on a quand même souvent des visiteurs qui savent où ils mettent les pieds. Parce que c'est un petit engagement, un petit investissement que de venir visiter le CERCIL. Il faut préciser que c'est un musée, en centre-ville d'Orléans, qui est ouvert à tous les publics et qui parle de la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'avez dit, et plus spécifiquement qui resserre la focale sur l'histoire des camps d'internement dans le Loiret. 3 camps en particulier. Les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, qui étaient à peu près à 50 kilomètres d'Orléans, et le camp de Jargeau, un peu plus près d'Orléans. Pithiviers et Beaune-la-Rolande ont une histoire commune, ce sont des camps jumeaux d'une certaine façon. Ils ont, dans ces camps, entre 1941 et 1943, 16 000 juifs ont été internés. Parmi eux, plus de 4 000 enfants. Non seulement ce sont des camps qui ont servi à l'internement, mais ce sont également des camps d'où ont été déportés des juifs, des hommes, des femmes et des enfants.
Et dans ce cadre, est-ce que vous auriez une histoire d'une famille qui vous aurait particulièrement touchée ?
Alors, vous savez, quand vous passez devant le CERCIL, 45 rue du Bourdon-Blanc, il y a le visage d'une enfant qui est reproduite en très grand format. Cette petite fille, c'est l'une des 4000 enfants. Elle s'appelle Aline Corenne-Bagère. Elle a une histoire assez commune, au fond, aux autres enfants qui ont été internés là. Je vais en dire quelques mots. D'abord, elle est née vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Son père, comme beaucoup d'hommes juifs polonais, a été convoqué le 14 mai 1941 à Paris pour examen de situation. Ont été convoqués plus de 6000 hommes juifs étrangers pour examen de leur situation. C'était un guet-apens. Le 14 mai 1941, il a été arrêté, interné à Pithiviers, d'où il s'est évadé. Quant à Aline, la petite fille et sa mère, toutes deux ont été déportées à cette rafle de des 16 et 17 juillet 1942, à Paris, la rafle du Veldiv, celle à partir de laquelle sont massivement arrêtées les femmes, les enfants, les personnes âgées et malades. Et donc, toutes deux ont été internées dans le camp de Beaune-la-Rolande. Elles ont été déportées et Aline a été assassinée le jour de ses 3 ans à Auschwitz. Donc, il faut le savoir, j'ai employé le mot musée, j'ai pas encore employé le mot de mémorial. En fait, il y a aussi dans ce musée un mémorial qui est dédié aux 4400 enfants qui, après leur internement dans les camps du Loiret, ont été déportés et assassinés. Après, on pourra dire de quelle façon cette mémoire peut se faire, hein, à partir de quelles traces, à partir de quelles archives.
Plus de 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, on voit une montée en puissance et un retour du fascisme. Peut-on considérer que les lieux de mémoire comme le Cercil soient des remparts contre le fascisme et le racisme ?
Je vais juste nuancer quelque chose sur le terme de lieu de mémoire. On entend par lieu de mémoire un lieu où une étape de l'histoire s'est déroulée. Quand vous allez au Cercil à Orléans, ça n'est pas l'endroit où une étape de la Shoah s'est déroulée. Ce n'est pas un lieu d'arrestation, ce n'est pas un lieu de déportation, mais c'est le lieu du récit. C'est là que cette histoire se raconte. On pourrait développer davantage, mais ce n'est pas votre question. En revanche, la gare de Pithiviers, qui a été inaugurée l'année dernière, qui était une gare de voyageurs, une gare SNCF, qui a été inaugurée comme lieu de mémoire, a un musée. Donc là, quand on y va, on est à l'endroit même où une étape s'est déroulée, c'est-à-dire celle de la déportation des Juifs depuis le camp de Pithiviers. Je reviens à votre question sur l'extrême droite, sur les dangers. Il faut savoir qu'au Cercil, on accueille à peu près 10 000 élèves par an. Donc l'une des missions de ce lieu, c'est une mission pédagogique. C'est recevoir des élèves du CM2 à la terminale, troisième, première, terminale, CM2, que l'on reçoit. L'actualité est, je dirais, toujours présente en trame de fond. Mais nous avons aussi un rôle qui est celui de transmettre l'histoire et la mémoire. On doit faire attention. C'est-à-dire que transmettre cette histoire, c'est faire le pari qu'elle va ouvrir une réflexion, qu'à partir de là, on va faire des liens entre le passé et le présent. C'est toujours une question que nous, on se pose. Est-ce que c'est à nous d'expliciter les liens qui doivent se faire entre hier et aujourd'hui ? On essaye d'apporter les ressources, on essaye... Comment dire ? D'ouvrir l'esprit, de porter le regard vers des événements qui se sont produits, de dire comment ça s'est produit, comment de contextes qui parfois pouvaient paraître banals, comment de discriminations qui paraissaient ordinaires, il y a eu un basculement des mots aux actes, d'une radicalisation. On a pour vocation de former à l'histoire des génocides. Évidemment, toute discrimination ne donne pas lieu à un génocide, fort heureusement. En revanche, ce que l'on sait quand on compare les génocides, c'est qu'au début de tout génocide, il y a une situation qui paraît ordinaire. Et notamment avec une population désignée, ciblés, discriminés, stigmatisés. Il y a un moment où ça paraît anodin, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Vous comme moi, on n'est pas en mesure d'arrêter un génocide. En revanche, ces situations, ces contextes du début, on est là tous à devoir les regarder. Donc, voilà, ma réponse... Elle est un tout petit peu partagée. On a tous ça en tête. Quand je dis « on », ce sont les médiateurs, c'est moi la responsable du musée, c'est toute l'équipe du musée. On a cette vigilance à avoir. On est très attentif aussi aux réflexions des élèves aujourd'hui, leurs réactions qui ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qui ne sont pas forcément les mêmes à Orléans que dans d'autres territoires. Donc on est très vigilant à ça. Et en même temps, nous, d'où on parle, eh bien, d'un musée d'histoire, de mémoire, et pour écrire l'histoire, il faut des sources, il faut des archives. On ne peut pas faire l'impasse sur ce travail d'étude au préalable qu'est regardons les sources, regardons les archives, comment savoir, comment on peut savoir ce qui s'est passé.
Alors, j'aimerais revenir sur un point. Vous accueillez des élèves du CM2 à la terminale. Et j'imagine que vous ne traitez pas le sujet de la même manière entre les classes de CM2 et entre les classes de terminale. Alors j'aimerais savoir comment vous traitez ce sujet.
Absolument. Alors les thématiques sont à peu près communes. Au fond, on aborde à peu près les mêmes thématiques avec des enfants de CM2 et des plus grands de terminale. Ces thématiques en question, c'est la résistance, c'est l'antisémitisme, c'est l'histoire du nazisme, c'est la propagande. Ces différents thèmes-là auxquels on va être vigilant, mais évidemment qu'on ne va pas regarder de la même façon. Disons que, au fond, on l'a dit au début, on parle d'une histoire d'internement, mais aussi d'une histoire de déportation et d'une histoire d'extermination. Il ne s'agit pas pour les enfants de leur transmettre une histoire qui soit traumatisante, qui soit fascinatoire, qui ne transmette que une émotion dramatique. Donc, il faut réussir à nuancer entre une approche qu'on ne veut pas non plus tout à fait froide, mais quand même, il faut avoir une approche un peu méticuleuse pour s'approcher de cette histoire avec les enfants. Les mots qu'on emploie ne sont pas les mêmes. Alors en général, on va parler plutôt de parcours d'enfants, d'enfants du même âge, qui sont des enfants cachés. Parler des enfants cachés, ça veut dire qu'ils ont été cachés par des familles, et notamment par des justes. Donc, parler des justes, c'est parler de l'entraide, c'est parler du sauvetage. C'est, voilà, dire aussi que tout n'est pas blanc ou noir, qu'il y a eu une politique d'État antisémite, mais qu'il y a eu une population qui s'est manifestée, qui a aidé. On essaye d'apporter cette nuance-là. Avec les plus grands, on va plus loin dans les mécanismes d'un génocide et dans ce qu'est, je dirais plus explicitement, la déportation. On ne regarde pas forcément les mêmes objets, les mêmes archives.
Le mardi, vous mettez à disposition des échanges culturels avec des auteurs ou des historiens. Mais qui sont ces personnes? Que viennent-elles apporter?
Alors attention, on ne les met pas à disposition, on les anime. On les anime, ça veut dire que ça demande. D'abord, il y a toute une construction. Ça, vous savez, depuis que le CERCIL existe, depuis en tout cas en tant que musée, parce que longtemps le CERCIL a existé sans musée. Mais il y a un musée depuis 2011. Et depuis 2011, il y a ces mardis du CERCIL à 18h. Ça veut dire construire une programmation où, on l'a dit, notre sujet, c'est les camps d'internement dans le Loiret. Vous voyez bien que si on s'en tenait strictement à ce sujet-là, on n'aurait pas de matière pour faire des rendez-vous tous les mardis. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est, au-delà des camps d'internement, de comprendre la guerre, de comprendre dans cette guerre ce qu'est un génocide, de s'approcher des archives, j'ai plusieurs fois employé ce mot, il y a l'histoire qui nous intéresse, il y a la mémoire qui nous intéresse. Donc, on va solliciter qui? Des historiens qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets-là. On va solliciter les témoins. Ils sont de moins en moins nombreux aujourd'hui, évidemment. On va solliciter des écrivains. On observe depuis quelques années un phénomène assez intéressant où vraiment les générations d'après, la troisième génération, écrit sur l'histoire des grands-parents, des grands-parents, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on retrouve dans le grenier, des photographies, des lettres, sur ce qu'on n'a pas osé demander, sur le silence. Au fond, il y a presque aujourd'hui une littérature de la transmission du silence. J'ai cité les témoins, les historiens, les écrivains. Voilà, donc c'est... On essaye au fond, on essaye de faire venir au CERCIL un public très varié. Pour dire, et je l'ai dit au tout début, c'est un lieu ouvert à tous, quelles que soient nos connaissances, quel que soit notre rapport personnel ou non à cette histoire-là, évidemment. C'est quand même une histoire, l'histoire de la Shoah, qui n'est pas une histoire qui appartient uniquement aux Juifs. C'est une histoire que l'on doit tous regarder en face et qui nous amène à réfléchir. Je vous donne un exemple, mardi prochain. Retenez bien, mardi prochain, on a vraiment un invité de marque. C'est un auteur américain. Il s'appelle Jerry Stoll. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle 999, point d'exclamation, avec un sous-titre, La dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar. Autant dire que c'est très intriguant et qu'on se dit, bon, là, on va voir si on est dans notre sujet ou si on est un petit peu à côté. Eh bien, il parle de l'Holocauste, il parle du dark tourism, il parle du rapport qu'on peut avoir 80 ans après à la Shoah. Il ne parle pas que de ça, donc ça peut déconcerter un certain public, mais c'est aussi une entrée. Et on s'est dit que nous aussi, on pouvait faire intervenir ce genre d'invité iconoclaste. Voilà, donc venez nombreux à ce rendez-vous.
Alors, pour revenir...
Et il est 12h59 sur Radio Campus Orléans. Dans l'émission Écoute à Fac, il nous reste 30 secondes pour vous annoncer le programme de la fin de journée. À 19h, retrouvez l'émission du fictionnaire. À 20h, ce sera T'en veux, c'est de la bonne. À 21h, Mon Ramour. À 22h, Tentacule. Et à 23h, Grand Control. Très bonne fin de journée. Vous pouvez retrouver la fin de l'interview de Yann concernant le CERCIL sur Radio Campus Orléans.